France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nos archives vont vibrer et danser au son de l'accordéon de Marcel Azola que Florence Brosselin recevait pour l'émission Mémoire retrouvée en 2003. Marcel Azola nous raconte dans la première partie de cet entretien ses débuts musicaux au violon, puis sa carrière d'accordéoniste qu'il a débuté dans les brasseries à l'âge de 11 ans. Marcel Azola nous fait partager sa passion pour l'accordéon qu'il a brillamment mise en lumière en se promenant dans tous les répertoires pendant sa longue et très riche carrière.
Ce qui caractérise ma carrière, c'est de m'être intéressée à tout et de m'être informée le plus possible. Quand on se retrouve en studio d'enregistrement avec un orchestre et qu'on vous demande de jouer certaines couleurs musicales que l'on ne connaît pas toujours, il n'est plus possible de reculer. Il faut sans cesse s'adapter, rester curieux, se surpasser. C'est difficile, mais passionnant. Marcel Azola. Le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, interprété par Marcel Azola. Au panthéon des accordéonistes, s'il est un nom accroché en lettres d'or, c'est bien celui de Marcel Azola, car cet artiste à la personnalité attachante a contribué à donner au piano à bretelles ses lettres de noblesse tout au long d'une carrière riche et variée. Admiré mais aussi jalousé par ses comparses pour son parcours musical exceptionnel, Marcel Azola a embrassé tous les genres musicaux. De la brasserie au bal musette, on le retrouve également musicien de studio, accompagnateur de chanteurs, de Jacques Brel à Yves Montand en passant par Juliette Gréco ou Edith Piaf, sans oublier son incursion dans la musique contemporaine et le jazz, aux côtés de Stéphane Grappelli, Martial Solal, Christian Escoudé ou en trio encore, avec Patrice Caratini et Marc Fossé. Toujours à la recherche de nouvelles expériences, Marcel Azola a promené son accordéon à travers le monde entier, s'imprégnant de toutes ses couleurs sonores pour enrichir sa palette. Sa carrière est jalonnée de prix et de reconnaissance. À 18 ans, il remporte la Coupe mondiale de l'accordéon, puis l'Oscar mondial de l'accordéon, avant d'obtenir le Grand Prix du disque ou encore le Grand Prix de la SACEM pour la musique instrumentale. Ce musicien dont l'effigie figure au musée Grévin est également pédagogue, puisqu'il s'est consacré à l'enseignement pendant de nombreuses années, jouant un véritable rôle de défenseur de son instrument. Aujourd'hui, Marcel Azola porte un regard sincère, empreint de modestie, sur cette carrière bien remplie. Il nous parle de ses débuts musicaux avec l'apprentissage du violon.
Effectivement, j'ai commencé par le violon avec mes deux sœurs aînées. Il y avait donc un violon à la maison. Mon père avait été mandoliniste en Italie, avant donc de s'exiler en France, où il était reçu d'ailleurs. La telle preuve, c'est qu'il s'est naturalisé d'origine italienne, il s'est naturalisé français très vite pour remercier la France de l'avoir accueilli de cette manière-là. Il a pu trouver du travail et puis voilà ce qui lui a permis de nous payer des leçons de violon aux trois premiers enfants. Donc les deux aînés violoniste, moi au milieu, violon, et les deux cadettes, le piano. Mais pas du tout le côté bourgeois, il faut faire de la musique pour épater les voisins, ou les non, parce que c'était une nécessité de distraction dans la vie, et en tout cas une bonne direction de faire de la musique, ou en tout cas essayer de comprendre la musique. Alors le violon, je trouve que c'est formidable comme école, parce que c'est un instrument extrêmement difficile. Déjà l'archet, la correspondance avec l'accordéon, c'est le soufflet. Quand on manie bien le soufflet de l'accordéon, on a déjà l'expression, donc l'expression, c'est ce qui est primordial en musique. Mais enfin, je ne vais peut-être pas épiloguer comme ça toute la journée sur les caractéristiques de l'instrument. En tout cas, les deux cadettes ont fait du piano, et puis un jour, mon père rentre à la maison, rentre de son chantier, il était maçon, je vous l'ai dit, et un de ses amis, M. Rossi, dont le fils était déjà une star, jeune prodige, à 10 ans, 11 ans, il était déjà vedette. Il était en Angleterre, dans l'orchestre de Jack Hilton. Jack Hilton, c'était un orchestre jazz symphonique. C'est un terme qu'on employait à l'époque. C'est-à-dire qu'il jouait des morceaux sérieux. Le fils de Papa Rossi jouait déjà la Rhapsody in Blue avec l'orchestre. Un orchestre conséquent, je crois que c'était un orchestre d'une trentaine de musiciens. Et donc, mon père rentre un jour à la maison en disant « Est-ce que l'accordéon, ça te tenterait ?» Je vais vous dire, j'avais pas une idée vraiment précise là-dessus. Sauf que dans toute cette banlieue parisienne, il y avait les guinguettes, il y avait les balmusettes, il y avait de l'accordéon partout autour de Paris. Et comme on se baladait beaucoup à vélo avec mon père les dimanches, l'accordéon, ça faisait partie du paysage, et l'accordéon, pourquoi pas.
C'était une ambiance sonore pour vous déjà.
Oui, tout à fait. Et puis le violon, l'étude du violon était déjà plutôt un peu rébarbatif, parce que les sons filés, le violon est un instrument où il faut fabriquer soi-même les notes. Elles ne sont pas toutes faites, il y a les cordes, mais il faut... Et puis voilà, l'accordéon, ça a été tentant, c'était festif, c'était juste à l'avant-guerre, hein. Et donc, j'ai dit oui.
Un extrait de la Rhapsodie in Blue de George Gershwin, interprété ici par Marcel Azzola à l'accordéon, Ilina Bossati au piano. Marcel Azzola, vous avez abordé la musique avec l'étude du violon, mais comment en êtes-vous venu à l'accordéon ?
J'ai pris mes premiers cours d'accordéon, j'ai très vite gagné les concours, fallait bien être contre quelque chose, contre d'autres candidats, d'autres concurrents. Et puis, le métier m'a happé très très vite. Au bout de 2 ans d'accordéon, comme j'avais eu l'expérience déjà du solfège et de la musique avec le violon, j'ai fait quand même relativement vite, mais d'autres auraient pu faire la même chose. Hein. Je ne veux pas du tout tirer une couverture particulière, mais j'ai pu faire le métier très vite, parce que lisant la musique, il y avait peu d'accordéonistes qui lisaient la musique à l'époque. On jouait beaucoup d'oreilles, beaucoup jouaient d'oreilles comme ça, ils apprenaient les airs, et puis ils les retranscrivaient comme ils pouvaient, mais c'était jamais bien précis, quoi. Alors, ce qui fait que j'ai été très très vite engagé dans les orchestres, et puis j'avais déjà à mon répertoire des morceaux brillants qui devaient plaire au public, normalement, et c'est ce qui s'est passé, voilà.
Et qu'est-ce que vous travailliez comme répertoire ?
Alors, le répertoire de l'accordéon à l'époque, avec le professeur que j'avais, qui s'appelait Monsieur Médard Ferrero, qui était un grand maître, c'était déjà les ouvertures célèbres, c'était déjà les Rossini, bien sûr, la Pivoleuse, le Barbier de Séville, l'Italienne à Alger. C'était les ouvertures de Mozart, c'est-à-dire les Noces de Figaro, voire la Flûte enchantée. On jouait déjà ces pièces-là au piano solo. Et à l'accordéon, c'était peut-être un petit peu plus rendu orchestralement, parce qu'on avait une registration déjà sur nos instruments. Et on tolérait, de toute façon, on le tolère beaucoup moins maintenant parce qu'il y a un répertoire. On écrit beaucoup pour l'accordéon dans le monde entier maintenant. Mais à l'époque, de jouer ces ouvertures, c'était le cas de le dire, une ouverture vers la grande musique. Et Ferrero m'a fait travailler vraiment les Albéniz, tous les Espagnols, tous les compositeurs intéressants que j'ai un jour, au cours de ma carrière discographique, que j'ai enregistré. J'ai eu le culot d'enregistrer donc ces choses que j'avais travaillées quand j'étais môme.
Version accordéonesque de la danse rituelle du feu de Manuel de Falla, interprétée par Marcel Azola. Marcel Azola, vous avez débuté votre carrière professionnelle dans les brasseries à l'âge de 11 ans. C'est très jeune, mais est-ce que c'était quelque chose de courant à l'époque ?
Oui, aujourd'hui ça ferait enfant martyr, mais je pense qu'à l'époque, oui, ça se faisait. J'ai rencontré d'autres collègues qui ont commencé très tôt aussi, mais c'était quand même pas, on n'était pas légion non plus. On en retrouvait dans les concours, mais les parents n'ont pas forcément envoyé tous leurs mômes au turbin, quoi. Alors, moi, j'y ai eu droit. Pourquoi ? Parce qu'on était une famille nombreuse, et puis je voulais payer moi-même mes leçons. Alors donc, ça a été les occasions de travailler. Je dis pas que j'ai quitté l'école très tôt, j'ai passé mon certificat d'études primaires, mais après, il a fallu quand même essayer de s'instruire un peu plus.
Mais c'était quelque chose aussi qui vous plaisait, de vous confronter au milieu musical tout de suite.
C'était formidable, c'est formidable. D'abord, on est le benjamin d'un groupe, et puis, mais faut faire l'affaire, attention. Et puis, il y avait un autre avantage, c'est que c'était la même paye que les adultes. Donc, je veux dire, C'était bien.
Et alors, quel répertoire vous abordiez dans ces brasseries ?
Dans les brasseries, je vous dis, il y avait pas beaucoup de chansonnettes. Il y avait les fantaisies d'opéra, les fantaisies d'opérette. On jouait en soliste, soit le ou la violoniste jouait la méditation de Thaïs ou jouait donc ces pièces de violon, populaires. Et moi, à l'accordéon, ce que je jouais pour plaire au public, je jouais le final de l'ouverture de Guillaume Tell, parce que c'est une sorte de galop. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que ce morceau. Ou alors, on jouait aussi Cavalerie légère, ou on jouait aussi des ouvertures célèbres qui font partie du grand répertoire.
Thank you.
extrait de Guillaume Tell de Rossini, arrangé et interprété par Marcel Azzola. Marcel Azzola, vous avez été donc musicien dans les brasseries à vos débuts, mais vous avez été aussi musicien de bal. Pouvez-vous nous parler de cette période ?
Avant de commencer ce répertoire de brasserie, j'avais quand même joué dans les guinguettes, puisque j'ai commencé, vers 10 ans, mon professeur, qui venait donc me faire travailler à la maison, mon professeur me faisait jouer dans la guinguette où il se produisait, lui, les dimanches, une guinguette qui se trouvait à Bobigny. J'ai jamais retrouvé la rue, j'ai jamais retrouvé la guinguette, ça n'existe plus, tout a été changé. Mais dans cette guinguette, donc lui faisait son répertoire, il y avait ce qu'on appelait le jazz. Le jazz, c'était une batterie, il y avait une caisse claire et une grosse caisse. Et il me demandait de lui rythmer les danses qu'il faisait danser donc aux gens. Et il me donnait l'accordéon, son accordéon, et lui se mettait à la batterie. Et vice-versa, ce qui veut dire que c'était une école formidable, quoi, d'avoir le professeur qui vous donne l'exemple, et puis vous, essayez de faire le mieux possible. Maintenant, évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait trop de ratés, ni pour les danseurs, ni pour lui. Donc, ça a été, à mon avis, une école relativement brève, mais formidable, fructueuse, quoi.
Et alors, vous étiez aussi musicien de bal, donc dans ces guinguettes, mais aussi après dans des bals musettes.
Ben, écoutez, parce que avec l'accordéon, la danse, ça paraissait presque obligatoire, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours eu quand même un grand respect de tous les joueurs populaires qui font danser. Faire danser, c'est un art aussi. On n'est pas obligé de jouer mal. Ben bon, malheureusement, c'est assez courant, mais quand on joue bien, c'est formidable. Il y a eu des artistes de l'accordéon merveilleux, comme évidemment Médard Ferrero, mais il n'était pas, lui, spécialiste du bal. C'était un concertiste. Mais les Murena, Tony Murena, Gus Wieser, Carrara, ces gens-là, Prudhomme dans son style plus populaire et plus gouailleur aussi, mais tous ces gens qui ont distrait leur public, c'est formidable déjà, je trouve que c'est respectable.
Albanaise de Gus Wieser, interprétée à l'accordéon par Marcel Azzola. Marcel Azzola, vous êtes un musicien qui a accompagné un grand nombre de chanteurs, et pas des moindres, puisque vous avez joué aux côtés de Juliette Gréco, Jean Sablon, Barbara, Édith Piaf ou Jacques Brel, pour n'en citer que quelques-uns. L'accordéon était-il très demandé à cette époque, et surtout, comment avez-vous été sollicité ?
C'est très bizarre. Vous savez, quand vous êtes professionnel, vous êtes dans un métier, ben, y a des gens qui vous connaissent, ceux qui pratiquent vraiment le métier. Alors mes camarades de studio, qui étaient aussi donc qui ont été concertistes aussi, comme Freddy Balta, plus jeune que moi, il y a eu Gilbert Roussel, c'est moi qui l'envoyais faire les séances. Comme on lisait la musique, c'était une espèce de clan. Un clan qu'on appelle, ce que certains appellent les requins. Donc, il y avait les requins du violoncelle, de la flûte, de la batterie, de la contrebasse. Et il y avait aussi quelques requins de l'accordéon. Les requins, ce sont des musiciens qui viennent dans un studio qu'on a commandé, à qui on a téléphoné, qui s'assoient sur une chaise devant un pupitre et on leur colle une musique qu'ils n'ont jamais vue de leur vie et il faut la jouer tout de suite parce que l'enregistrement n'attend pas. Voilà, on fait une répétition une fois, deux fois et j'ai vu souvent des musiques de films avec certains chefs d'orchestre, par exemple Georges Delerue, avec lui on ne répétait même pas. Avec lui, c'était tout de suite. Allez, pas d'histoire. Et bon, c'est un métier, c'était une responsabilité, et il valait mieux être prêt, quoi. Je veux dire, c'est les requins, je crois pas qu'on doive les critiquer. Je crois qu'ils sont encore même nécessaires maintenant, quand on fait des choses. J'étais encore, c'est curieux, je veux dire, j'étais encore hier en séance avec Georges Moustaki, et il faut faire vite, quoi. Il faut faire vite, il vaut mieux bien connaître son instrument.
Vous êtes un
bien
connaître... professionnel.
Oui, et puis savoir lire la musique aussi, et savoir ce qu'on attend de vous aussi.
Et alors, dans votre collaboration avec les chanteurs, est-ce que vous aviez une part de liberté dans l'interprétation, ou justement tout était écrit, canalisé, ou il y avait une place pour l'improvisation?
Pas toujours. Il y a des séances dans lesquelles il y avait uniquement la partition qu'il fallait assurer parce qu'elle s'imbriquait bien, soit avec les cordes ou avec les rythmiques ou avec le chanteur aussi qui voulait pas de gargouillis derrière lui. J'appelle ça gargouillis, improvisation ou variation, ce que vous voulez. Et ça dépendait des séances. Par exemple, si on revient sur Brel, j'ai été entièrement libre dans Vesoul. J'ai été entièrement libre dans quoi aussi, toi, si t'étais le bon Dieu. Mais là, j'ai pas fait de variation. Fallait surtout pas déranger les paroles en faisant des paquets de notes. Alors que dans Vesoul, c'est Brel, c'est Jacques qui me disait « Oui, 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 vas-y Marcel, fais-moi beaucoup de notes, comme ça tu m'enrobes bien et tout ça. » Et ça, c'est ce qui lui plaisait, c'est ce qu'il voulait pour cette chanson un peu fofolle, quoi, qui était pas du tout la meilleure dans son répertoire.
D'où le chauffe Marcel.
Voilà, tout à fait.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont-Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars. Et je te le redis, hey, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du thon et on a vu du thon. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance.
Vesoul de Jacques Brel, accompagné à l'accordéon de Marcel Azola. Marcel Azola, vous évoquiez votre travail avec Jacques Brel, mais comment s'est passée votre rencontre avec Montand ? C'était un petit peu inopiné ?
La collaboration avec Yves Montand, c'est inopiné, je ne sais pas si c'est inopiné, en tout cas, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était Freddy Balta, qui était donc un des requins, donc lui, accordéonesque, mais qui était aussi un très bon organiste et un très bon pianiste, donc très bon musicien. Et on me téléphone un jour pour me demander de partir dans la tournée de l'Est avec Yves Montand, c'est-à-dire les pays des démocraties populaires. Qui me téléphone ? Le pianiste de Montand, Bob Castella, qui me téléphone donc de la part d'Yves. Marcel, est-ce que vous seriez intéressé à faire la tournée avec nous ? On va partir dans les pays de l'Est, donc on commence par Moscou, on continue par Leningrad, on va à Kiev, et puis toutes les démocraties populaires. Enfin bref, je vous les énumère pas, c'est pas la peine, vous les connaissez. Et je rappelle tout de suite sur ce coup de fil, je donne pas mon sentiment tout de suite, je dis je ne sais pas, je me donne le temps de réfléchir, je vous rappelle demain ou tout, faut que je vois mon... C'est que j'avais moi des dates avec mon orchestre déjà à l'époque, ça c'était en 50... c'était en 56. Et j'appelle Freddy Balta, je lui dis Freddy, on m'a téléphoné pour partir à ta place dans cette tournée. Il dit oh là là, accepte si ça te plaît, moi pas question du rideau de fer et j'aime pas l'avion. Alors évidemment, ça faisait déjà deux motifs. Puis ça me rassurait surtout sur le fait qu'on ne me demandait pas d'y aller en poussant quelqu'un du coude comme ça, en disant « Toi, t'es viré. Pas question de ça. »
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la sève, à n'importe quelle heure, la sève visiteur, qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la sève. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Voilà l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Yves Montand, accompagné de Marcel Azola, interprétait cette chanson « À Paris » de Francis Lemarque. Marcel Azola, parlez-nous encore de cette tournée avec Yves Montand en Union soviétique en 1956.
J'ai accepté de partir avec Montand dans cette tournée, ce que je ne regrette pas d'ailleurs, parce qu'on a failli pas partir à cause de la Hongrie d'ailleurs. Il y avait des problèmes politiques, puis l'insurrection, tout ça. Et donc je suis parti avec Montand et Signoret et Simone, parce que moi je m'entendais bien avec Simone aussi. Et donc cette tournée, une tournée formidable, quoi, pratiquement presque 4 mois de tournée, même s'il y avait des problèmes politiques qui étaient là, on s'est retrouvé à table avec Khrouchtchov, Mikoyan, Bulganine, avec ces gens-là. C'est Simone qui menait le bal et qui les engueulait, quoi. C'est elle qui prenait sur elle de dire vous agissez comme des salauds. Enfin bref. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Yves Montand. Et puis depuis cette tournée de 56, il y a eu donc d'autres séances d'enregistrement auxquelles j'ai participé. Il y a eu et puis pour finir, il y a eu cette Olympia. Et puis il y a eu la tournée mondiale. Et il y a eu, enfin bref, j'ai eu droit à tout ça, quoi. J'étais content de repartir. J'étais pas complètement annexé à Yves Montand. Je pouvais faire moi ma carrière, mais la dernière fois qu'on m'avait proposé de repartir avec Yves Montand, j'ai dit tiens pourquoi pas, puisque j'ai commencé. C'est drôle, j'ai eu un peu le même problème avec Barbara. Barbara, j'avais fait son premier 25 cm, premier enregistrement, je veux dire, sur des chansons de Brassens à ses débuts au disque. Elle, Barbara, donc c'était avec Pierre Yégel à l'époque, le directeur artistique. Et quand elle m'a redemandé de participer avec elle au Châtelet en 87, oh, j'ai dit, c'est drôle, tu commences avec quelqu'un et presque tu peux finir avec quelqu'un. Bon, elle a encore fait, je crois, 2-3 choses après, mais peu de choses parce qu'elle était très fatiguée, Barbara. Alors c'est très curieux d'être avec des... Et j'ai le même problème avec Gilbert Bécaud. Ses premiers 78 tours, j'étais sur l'étiquette en tant que Marcel Azola à l'accordéon. C'était François Vermeil au piano. Évidemment, Gilbert Bécaud, la vedette heureusement. Et puis, une de ses dernières séances à Bécaud, où j'enregistre, je crois, la chambre. Mais il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quoi, juste avant sa disparition.
Il a l'impression, à 20 ans, de mourir enterré vivant dans son petit bureau. Vers les 16h, 27, 28, il reprend ses claques et ses clics et son petit métro. Et salue sa vraie vie, la vie telle qu'il aime dans sa chambre au 12e. Et sa journée enfin commence. Entre le rêve et la revanche, il se débouche une petite mousse. Plus obligé de boire en douce, il met à Zola à fond la caisse. L'intello d'en bas, là qui proteste, il lui fait un bras d'honneur. Il comprend rien au bonheur. Il va flinguer ses habitudes dans son rectangle des Bermudes. Sa chambre intersidérale s'envole à hauteur d'étoile. Dans son oasis de 3 mètres sur 6, au milieu des tours et des vautours. Il boit des océans d'absinthe avec des putes, avec des saintes. Son lit, c'est la terre de feu, où il fait l'amour qu'il veut. C'est dans la jungle bolivienne que Guevara lui dit « Je t'aime ». S'embarque sur la route du Rhum. Il redevient Al Capone. C'est son oasis de 3 mètres sur 6 au milieu des tours et des vautours. Oh, sa chambre lance, sa chambre est folle, la terre en transe perd la boussole. Il dit que pour pas mourir, il faut plus jamais dormir. C'est son oasis de 3 mètres sur 6 au milieu des tours et des vautours.
Marcel Azola à l'accordéon accompagnait Gilbert Bécaud pour ce titre « La chambre », extrait de l'album « Faut faire avec ». Marcel Azola, à l'époque où vous accompagniez des chanteurs, vous avez débuté les séances de studio puisque vous avez enregistré chez Barclay, puis La Voix de son maître. Comment cela s'est-il passé ?
Écoutez, je ne sais pas, moi, une progression tout à fait normale dans ce métier, c'est comme ça. Mais je crois que c'est par cooptation, finalement. Les gens vous connaissent et ils savent qu'on ne va pas rater une séance à cause de vous. Ils savent que... Je pense que c'est ça, quoi. Je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut avoir un minimum de conscience professionnelle déjà, avoir un minimum de technique aussi, un minimum de connaissance des musiques différentes. Je me suis toujours intéressé aux musiques du monde, à savoir les styles, les couleurs. Alors de plus en plus, même maintenant, m'intéresser à la manière dont on se sert de cet instrument, de l'accordéon en général, dans les pays différents. Parce que finalement, les instruments ont des couleurs bien précises. Si vous allez, par exemple, en Louisiane, les cajuns ont un instrument qui ressemble un peu plus au bandoneon. Et ils l'électrifient, en plus, ce qui fait que ça donne un son assez original et assez plaisant. Mais ils en jouent, eux, de leur manière. Et j'aime bien pouvoir essayer de trouver le lien pour essayer d'aller, sans forcément les copier, mais en tout cas essayer d'entrer dans le style. J'ai fait mes classes avec les Argentins, donc je veux dire, j'ai été très très près de cette musique argentine, le tango de préférence, parce qu'il y a une autre musique argentine, il y a eu des compositeurs classiques. La meilleure preuve, c'est qu'Astor Piazzolla nous a prouvé qu'il n'avait pas seulement écrit des tangos, il a écrit des pièces symphoniques magnifiques. Donc, le bandoneon, j'ai fait mes classes avec les spécialistes. Et c'est ça qui est intéressant. Au Québec, il y a aussi une manière d'utiliser l'accordéon avec aussi des sons. Là, c'est déjà l'accordéon diatonique. Diatonique, ça ne vous dit rien, mais enfin, c'est l'accordéon folk. Allez, ça ira mieux comme ça. Et on joue un autre répertoire. Et il y a une manière aussi d'utiliser l'accordéon québécois.
Et tous ces différents aspects, cette pratique instrumentale, c'est un intérêt qui vous est venu au cours de vos voyages, au cours de vos tournées. Vous aviez déjà une envie de connaître la façon dont on pratiquait cet instrument à travers le monde.
C'est une manière intéressée pour pouvoir faire mon métier. Vous vous rendez compte ? Faut pas rater l'occasion, justement, de mieux comprendre et de pouvoir éventuellement pratiquer et éventuellement, dans certaines circonstances, sauver une situation. Ça m'est arrivé souvent dans des séances d'enregistrement où si c'est pas le producteur, en tout cas le chef d'orchestre, ou pour des musiques de film, on a besoin d'une couleur particulière. Si on la connaît pas, on n'est pas du métier. On a intérêt à en savoir le plus possible. Alors bon, je ne connais pas tout, bien sûr. Il serait temps encore que je m'y remette et que j'apprenne encore d'autres choses. Mais disons que l'accordéon, Il s'est quand même à une époque limité, disons, aller au maximum à une dizaine de couleurs. Le roumain joue d'une certaine manière, les bulgares jouent d'une autre manière, ça je l'ai appris aussi en allant dans les pays de l'Est. Mais quand vous vous retrouvez en studio et qu'il faut jouer une couleur, bon, en ce moment, je suis allé souvent au Japon aussi. Alors bon, mais les accordéonistes japonais que je connais, soit ils jouent le jazz, soit ils jouent la musique classique, ils jouent des pièces classiques ou des adaptations. Donc je veux dire, ça je connais déjà. Je dis pas que je le fais bien, mais je dis je connais. Alors, je veux dire, on n'en saura jamais assez, quoi. Il y a toujours quelque chose à apprendre et c'est formidable.
Valverde de Marc Perron dans un arrangement de Bernard Lubat avec Marcel Azola à l'accordéon chromatique. Marcel Azola, vous avez également enregistré pour le cinéma puisque vous avez participé à plus de 120 bandes originales de films. Est-ce que c'est encore quelque chose à part dans la vie d'un musicien ?
Oui, c'est à part à partir du moment où on écoute soit le metteur en scène, soit le chef d'orchestre, ça dépend, il y a beaucoup de choses, il y a un chef d'orchestre, il y a une musique imposée, mais je me suis retrouvé par exemple il y a fort longtemps maintenant avec Jacques Tati en studio pour la musique de mon oncle par exemple. D'ailleurs, je suis pas très fier d'écouter ça, mais ça c'était le goût de Tati. De vouloir des excès. Il voulait des excès, il se foutait devant moi. Il avait donc le micro, là, comme ça. Moi, j'étais avec mon accordéon. Il venait devant moi, il me disait, allez, je sais pas si vous voyez ce que c'est, si vous entendez mon oncle. Il voulait des excès de souffler. Il voulait ça. Et moi, je faisais ce qu'il souhaitait. C'était lui le patron, d'abord. Et puis, c'est lui qui savait sur ses images ce qu'il préférait. Bon, ben, j'écoute, me dit, c'est moi qui fais ça, ça m'emballe pas. Et en même temps, je suis quand même assez content de l'avoir fait, quoi. C'est toujours ça. Mais musicalement, ça vous apporte pas toujours des choses folles.
La bande originale du film Mon oncle de Jacques Tati avec la participation de Marcel Azola. Alors Marcel Azola, nous parlions de musique de film auquel vous avez participé. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes ?
Dans Le juge et l'assassin, non, dans Le juge et l'assassin, ça, c'est encore une autre anecdote, c'est avec Galabru. Tavernier, Bertrand Tavernier a envoyé Galabru, m'a demandé de recevoir chez moi quelquefois Galabru pour lui apprendre à tenir un accordéon, parce que dans Le juge et l'assassin, il est l'assassin accordéoniste. Et les trois fois où il est venu chez moi, c'était un désastre. Évidemment, il me faisait rire aussi, parce que c'est de sa nature, mais il est venu la troisième fois avec son fils qui travaillait le piano au Conservatoire National de Paris, avec Pierre Sancan, qui est un grand virtuose, et il se tournait de temps en temps vers son fils en lui disant « Écoute bien ce que me dit Marcel, tu me rappelleras tout ça à la maison. » Et dans le film, il se sert de ça comme d'un extenseur. Mais enfin bon, c'est, c'est une espèce de fou dans le film, hein, c'est un assassin. Bon. Mais voilà des petites anecdotes qui font que musique de film, c'est pas toujours du concert, c'est pas toujours forcément... ce sont des couleurs, ce sont des flashs qui doivent venir comme ça illustrer. Des fois, c'est très court. Des fois, vous en enregistrez un quart d'heure et on en garde 15 secondes. Mais ça, c'est pas... J'ai qu'à monter ma production si je veux que ça dure plus longtemps. Non, mais c'est... Je trouve que c'est toujours une bonne expérience.
Ferme le premier volet de La mémoire retrouvée de Marcel Azola, une émission de Florence Brosselin, enregistrée et diffusée sur l'antenne de France Musique en 2003. Le podcast et la réécoute de cette archive sont à retrouver sur l'application Radio France ou sur le site francemusique.fr. Merci à Béatrice Trichet qui était à la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.